VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manerakis avec vous, il est 7h à Washington, 11h temps universel. Les nouvelles du monde au Mali, le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé a rejeté ce lundi à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle. Il a appelé le pays à se lever face à la dictature de la fraude. Pourtant, le scrutin s'est déroulé dans de meilleures conditions sécuritaires qu'au premier tour. Le ministre de la Sécurité a fait le point sur la sécurisation du vote à Bamako. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est un ministre de la Sécurité et de la Protection civile en tenue militaire avec ses galons de général de brigade qui s'est entretenu avec la presse pour faire le bilan de la sécurisation du vote de dimanche dernier. Général Salif Traoré.
Nous étions à 871 la dernière fois et cette fois-ci, nous sommes à 490 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Malheureusement, encore une fois, c'est la région du Mopti qui arrive en tête avec environ 440 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Et sur les 440, vous avez au minimum 100 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir pour cause d'inaccessibilité.
Les candidats de l'opposition Soumaïla Cissé rejettent à l'avance les résultats, appellent la population à se lever. Selon les données à notre disposition, nous sommes largement en avance sur le président Ibeka, déclare Soumaïla Cissé. Il condamne aussi le sabotage de leur base de données par les services techniques de l'État. Soumaïla Cissé n'a pas aussi mâché ses mots face à l'interpellation de quatre éléments de sa cellule de communication. Les quatre, après 2 heures d'interrogatoire au niveau d'un commissariat de Bamako, ont été relâchés, mais jusqu'à présent il y a un qui est introuvable. Face à cette situation, les candidats Ibeka et ses partisans n'ont pas voulu se prononcer. Ils préfèrent attendre les chiffres officiels qui seront proclamés par l'administration territoriale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et la Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats en milieu de semaine. Le vainqueur entrera en fonction début septembre. La mission l'observation de l'Union européenne doit présenter son rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin du second tour aujourd'hui à partir de 11h, heure locale et temps universel. L'opposant mauritanien Biram Ould Daoud Abeid a été inculpé et écroué ce lundi pour atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de violence. Abeid dirige une ONG anti-esclavagiste, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. En garde à vue depuis le 7 août dans un commissariat de Nouakchott, il est candidat aux législatives du 1er septembre. Un militant de son ONG, Abdallahi Ould Hussein, a été inculpé et écroué en même temps pour complicité dans le même dossier. Le procureur de la République du Tchad a ouvert une information judiciaire contre X à la suite de l'attaque rebelle le samedi de la localité de Kouri Bougri. Au moins 3 membres des forces de sécurité tchadiennes ont été tués. Ces rebelles étaient venus de la Libye voisine. Le procureur Youssouf Tom a indiqué que des mandats d'arrêt internationaux seraient lancés dès que les auteurs, co-auteurs et les complices seront identifiés. En RDC, l'opposition se mobilise pour un front commun face à la mouvance au pouvoir. Dans leur première déclaration commune depuis la clôture des candidatures le 8 août, tous les leaders de l'opposition ont exigé ce lundi soir le retour de Moïse Katumbi dans son pays pour participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ils ont mis en garde la commission électorale et la Cour constitutionnelle de ne pas invalider des candidatures des opposants, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba. Enfin, les opposants ont indiqué qu'ils poursuivent les concertations pour désigner un candidat commun. Les détails de Thierry Cambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des manifestations publiques synchronisées sur toute l'étendue de la République dans le but d'obtenir le retour de Moïse Katumbi et sa participation aux élections du 23 décembre 2018. C'est le mot d'ordre lancé lundi à Kinshasa par la plateforme Ensemble pour le changement. Délice Sangra, son secrétaire général, affirme que des marches sont prévues dans toutes les provinces pour obtenir que les élections soient véritablement démocratiques, libres, transparente et surtout inclusive. Un appel réitéré par quelques candidats de l'opposition à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et Martin Fayulu ont dans un communiqué conjoint signé lundi soir, je cite, fermement condamné la décision prise par le gouvernement d'interdire d'autorité à Moïse Katumbi de rentrer en RDC, le contraignant ainsi à l'exil et l'empêchant de ce fait de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Fin de citation. Ils exigent son retour immédiat au pays. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et les ex-rebelles du M23, toujours en RDC, ont maintenu la pression pour des élections crédibles. N'est-ce pas, Abdelrahman Dia?
Les ex-rebelles du M23, qui avaient été défaits dans l'est du pays, affirment dans un communiqué être physiquement présents sur le territoire national congolais depuis le 14 janvier 2017. Ils disent aussi ne pas répondre aux multiples provocations de l'armée. Cependant, cette attitude d'abstention ne sera maintenue que si et seulement si le processus électoral actuel se révèle plus inclusif, transparent et libre de manière à garantir toute la confiance des électeurs, prévient le M23. L'ancien mouvement rebelle demande en particulier la mise à l'écart de la machine à voter et la clarification des cas litigieux des 6 millions d'individus irrégulièrement inscrits sur le fichier électoral, selon ses propres termes.
Abdelrahman Dia, un activiste burundais, a été condamné ce lundi à 5 ans de prison. Nestor Nibitanga est accusé d'avoir produit des rapports sur les violations des droits de l'homme au Burundi pour le compte d'une organisation interdite par le pouvoir. Il a longtemps dirigé notre bureau à Gitega, dans le centre du pays, a expliqué à l'AFP Pierre Claver Mbonima, président en exil de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues à ProDH, la principale ligue de défense des droits humains du pays, fermée par le régime au début de la crise burundaise en 2015. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a apporté son soutien à un projet de loi inédit dans le monde arabe pour rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage. Le texte déroge à un principe inspiré du Coran et divise la loi tunisienne actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Au Royaume-Uni, l'homme arrêté par la police britannique après avoir lancé sa voiture contre les grilles du Parlement ce matin à Londres est soupçonné d'actes terroristes. L'attaque a fait plusieurs blessés et aucun n'est en danger de mort. La police antiterroriste a pris en charge l'enquête. Le président Donald Trump a défendu ce lundi son projet de force de l'espace. Il a signé le budget 2019 du Pentagone d'un montant record de 716 milliards de dollars. Cette loi de finances donnera aux militaires américains la puissance de feu dont ils ont besoin pour gagner n'importe quel conflit rapidement et de façon décisive, a indiqué Donald Trump au cours d'une cérémonie de signature sur la base militaire de Fort Drum dans l'État de New York. La loi débloque 69 milliards de dollars pour les opérations extérieures en cours, c'est-à-dire en Afghanistan, Syrie, Irak, Somalie, et prévoit aussi une augmentation de 2,6% des salaires des membres des forces armées et autorise des dizaines de milliards d'investissements dans la modernisation de la Navy, de l'US Air Force et des missiles de défense des États-Unis.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
L'ONU a demandé une enquête crédible sur l'assassinat d'au moins 29 enfants au Yémen. L'ambassadrice britannique à l'ONU, Karen Pierce, qui préside actuellement le Conseil de sécurité, a réclamé la transparence. Mais les experts et ONG doutent que l'Arabie saoudite soit capable ou désireuse de mener l'enquête à bien. Riyad dirige la coalition impliquée dans l'attaque. Le Royaume a consenti à ouvrir une enquête le 10 août hier. Lors des funérailles de ses enfants, des milliers de Yéménites ont crié leur colère contre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Précision d'Irénée Herman Oump.
Les dépouilles de certaines des victimes sont arrivées sur une grande place de Saada à bord d'une cinquantaine de véhicules. Au milieu d'une vaste étendue aride, la foule a brandi les portraits des enfants sur des pancartes accompagnés de leur nom et de la mention de martyrs. La foule scandait des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël et dénonçait unanimement un crime des Saoudiens selon des images retransmises en direct par la chaîne Al-Masira. Un haut responsable rebelle Mohamed Ali Al-Houthi, qui préside un comité révolutionnaire, a pris part à la cérémonie qui s'est transformée en manifestation. Il a lui aussi pointé du doigt un crime de l'Amérique et ses alliés. La chaîne de télévision rebelle n'a pas précisé le nombre de victimes enterrées hier lundi. Certaines familles avaient déjà inhumé leurs proches.
Et la chanteuse noire américaine Aretha Franklin interprète de grands succès comme Respect à Never Lose.